Sur Radio J, nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Et il est 8h, merci d'être avec nous ce mercredi 1er mai. Effectivement, 208e jour de guerre contre le Hamas et toujours malheureusement 133 otages dans la bande de Gaza. L'actualité avec Eva Soto dans quelques instants. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Ça va ce matin, toujours la forme?
Toujours la forme.
Et oui, la forme pour nous donner toutes les actualités encore pendant une heure et des rendez-vous. Il y en a, nous serons à partir de 8h20 avec Ephraim Bourganel, fondateur du site sarfaton.com pour découvrir le nord d'Israël, justement toutes les bonnes adresses, les bons plans. Il nous dira tout. Et puis à partir de 8h30, notre invité, on sera avec le père Patrick Desbois qui reviendra sur cette tribune notamment, qu'il a écrite avec deux autres frères dans la foi, Christophe Lecourt et le prieur d'Abou Gosh, Louis-Marie Coudray. D'ailleurs, vous receviez, Eva, la semaine dernière, Christophe Le Sourd, justement, qui a écrit cette tribune en solidarité avec les Juifs contre l'antisémitisme. On en parlera à partir de 8h30, 8h45, comme tous les mercredis matins, ce que l'humanité doit aux Juifs avec Caroline Amouyal. Et ce matin, on va parler des frères Warner, notamment, et oui, la fameuse Warner Bros, Warner Bros aussi, certains disent. On en parlera sur Radio J. Mais d'abord, l'actualité en Israël. 208e jour de guerre contre le Hamas et la 7e visite d'Anthony Blinken depuis les massacres antisémites du 7 octobre.
Le chef de la diplomatie américaine est arrivé hier soir en Israël. Il va évoquer les négociations pour libérer les otages, 40 sur les 95 encore vivants. Anthony Blinken doit rencontrer le président de l'État, Isaac Herzog, et le premier ministre, Benjamin Netanyahou. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk.
L'ordre du jour de ces discussions, le marché sur la libération des otages dont on parle beaucoup en Israël, l'opération israélienne dans Rafah, l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, le dossier du nord d'Israël et enfin l'option d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Hier, la Maison-Blanche a indiqué qu'il n'y avait aucun changement dans sa position contre une opération militaire israélienne dans Rafah. Le porte-parole du Conseil à la sécurité nationale, John Kirby, a affirmé qu'Israël n'avait pas encore présenté de plan visant à permettre l'évacuation de centaines de milliers de Gazaouis de la ville de Rafah.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk.
Et malgré tout, l'opération à Rafah aura bien lieu, une nécessité selon Benjamin Netanyahou.
Dans une vidéo postée hier soir sur les réseaux sociaux, le premier ministre israélien l'a affirmé, l'opération de Rafah doit être lancée pour permettre d'atteindre les objectifs de la guerre, libérer tous les otages et défaire le Hamas. Il faut dire que face aux progrès annoncés au Caire pour la libération des captifs, la pression politique monte. Le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, menace de quitter la coalition en cas d'accord qu'il jugerait trop clément pour libérer les otages, ce qui pourrait la faire tomber. Le ministre du cabinet de guerre, Gadi Eisenkot, lui, menace aussi de partir, mais si l'extrême droite pèse sur ce processus.
Une enquête de Tsahal sur la mort de deux réservistes.
Ils ont été tués dimanche dans le centre de la bande de Gaza, mais Ido Aviv, 28 ans, et Kal Kidan Meharim, 37 ans, seraient morts à cause de tirs d'un char israélien, tirant dehors de ses limites désignées. Le char a été pris dans des attaques du Hamas à la bombe et aux missiles anti-char près du couloir de Netzarim.
Tension en Israël, en Judée-Samarie, l'ambassadeur d'Allemagne attaqué à coups de pierre hier.
Il était en route pour une visite à l'université palestinienne de Bir Zeit. Sa voiture a été visée. Des étudiants ont aussi donné des coups de pied dans son véhicule et arraché son rétroviseur. Il n'y a pas eu de blessés. En revanche, il y en a eu trois autres pour la seule journée d'hier. Une Israélienne victime d'une attaque à la voiture bélier alors qu'elle-même était au volant en Samarie près du village de Barta. Et aussi un civil et un policier poignardés dans la vieille ville de Jérusalem. Le terroriste, un touriste turc, a été neutralisé.
La France va imposer de nouvelles sanctions à l'Iran à la prochaine réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le courant de ce mois de mai.
Les États-Unis pourraient aussi adhérer, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre français des Affaires étrangères à son homologue Israël Katz. Stéphane Séjourné en visite à Jérusalem. Il a aussi été question des attaques quotidiennes du Hezbollah, mandataire de l'Iran, contre le nord de l'État juif.
En France, les traditionnelles manifestations du 1er mai pour la fête du travail.
Et à Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place de la République pour rejoindre Nation au centre des défilés, la réforme de l'assurance chômage. Mais la crainte, c'est aussi que l'ultra-droite et des mouvements d'ultra-gauche souhaitent faire entendre leurs revendications, notamment pro-palestiniennes ou anti-sionistes. Cyril Chabanier, le leader de la CFTC, avec Christophe Barbier.
On voit que certains partis politiques, parfois même certaines, certains syndicats peuvent en faire une thématique de revendication, donc forcément il risque d'y avoir ce type d'action aujourd'hui. Nous, on pense qu'il ne, voilà, c'est toujours une très mauvaise idée quand on importe un conflit sur notre territoire. Donc je crois qu'il faut laisser ça de côté aujourd'hui. Il y a suffisamment de thématiques et de revendications autour du travail pour peut-être aujourd'hui pouvoir consacrer cette journée uniquement à cette thématique.
Cyril Chabanier, le président de la CFTC, ce matin sur Radio J au micro de Christophe Barbier, à podcaster sur radioj.fr et à retrouver sur notre compte YouTube.
Et puis les mobilisations anti-israéliennes prennent de l'ampleur dans les facs. De nouveaux mouvements sont prévus demain.
Sur tous les sites de Sciences Po, pas seulement à Paris, mais également à Menton, Saint-Étienne, Strasbourg et Rennes. Hier, ce sont les universités de Tolbiac à Paris, celles de Saint-Étienne et Sciences Po Rennes qui ont été évacuées par la police. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a affiché sa fermeté. Les blocages et les intimidations, c'est non, a-t-elle affirmé.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout au long de cette édition. Un point sur la météo ce mercredi matin. Eh bien, le temps est gris et brumeux sur les trois quarts du pays, avec des pluies sur l'arc atlantique et au sud-est. Dans l'après-midi, l'activité pluvieuse et orageuse se généralise. Et d'ailleurs, 14 départements, dont tous ceux d'Île-de-France, sont placés en vigilance orange. Une vague d'orage fort va balayer les régions allant de la Bourgogne aux Hauts-de-France entre la fin d'après-midi de ce mercredi et cette nuit de mercredi à jeudi. À Paris, il fera 20 degrés cet après-midi, 14 à Marseille. Et puis en Israël, toujours de belles températures estivales comme on aime. 24 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv. Plus de 34 à Eilat.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et un point sur l'infotrafic en région parisienne. Et on va commencer, effectivement, on en parlait, par les manifestations du 1er mai avec son lot de perturbations à Paris. Vous le savez, le cortège doit s'élancer à 14h de la place de la République vers la place de la Nation. La préfecture de police annonce un dispositif de circulation particulier entre les places de la République, de la Bastille, de la Nation, des boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais, Diderot et de la rue Lyon et de l'avenue Daumesnil. Selon la préfecture, il est vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l'événement, dès 10h ce matin. Et puis dans les transports en commun, c'est plutôt calme pour un 1er mai. Trafic interrompu toutefois sur le tram 1 entre Gennevilliers et mairie de Villeneuve-la-Garenne en raison d'un tramway en panne à chemin des Régniers. Heure de reprise estimée à 8h30.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et vous nous rejoignez sur Radio J en ce 208e jour de guerre contre le Hamas. Et oui, on fait le point comme chaque matin en direct sur Radio J avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pessah malgré, c'est vrai, cette ambiance compliquée, ce climat compliqué en Israël. Et on fait le point d'actualité avec vous. Une enquête de Tsahal a été ouverte sur la mort de deux réservistes israéliens.
Oui, dimanche, deux soldats de Tsahal ont trouvé la mort dans le centre de la bande de Gaza. Le sergent-chef de réserve Ido Aviv, 28 ans, et le sergent-chef de réserve Kalkidan Mehari, 37 ans. Les deux réservistes ont été victimes de ce que l'on appelle un tir ami. Alors qu'un tank était pris dans une embuscade, un autre blindé venu à son secours a tiré par erreur sur le bâtiment où se trouvaient les soldats, confondu avec des terroristes du Hamas. Et puis, sur le front nord, le Hezbollah continue de tirer sur la Haute-Galilée. Au cours des dernières 24 heures, la localité de Metoula a été la cible d'au moins 12 missiles anti-chars qui ont causé d'importants dégâts matériels mais qui n'ont pas fait de blessés. Et puis, à Jérusalem, hier, un garde-frontière a été blessé dans une attaque à l'arme blanche dans une rue de la vieille ville. L'agresseur a eu le temps de blesser le policier d'un coup de couteau dans le dos avant d'être abattu. Le terroriste était un citoyen turc entré la veille en Israël en provenance de Jordanie.
Et on dit que l'ambassadeur d'Allemagne a été attaqué à coups de pierre.
Oui, cela s'est passé à Ramallah, sur le campus de l'université Birzeit, où l'ambassadeur allemand était en visite avec d'autres membres d'une délégation de l'Union européenne. Leur véhicule a été caillassé par des étudiants. Ils ont été exfiltrés sans dommage du site de l'université.
Alors Pascal, on attend toujours cette fameuse opération à Rafah dans la bande de Gaza. Qu'en est-il aujourd'hui? Où en sont les négociations aussi pour libérer les otages?
Il y a aujourd'hui une visite qui devrait être déterminante, celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui arrive ce matin en Israël, qui doit être reçu par Benjamin Netanyahou, qui doit aussi avoir des entretiens avec les ministres du cabinet de guerre et avec le président Herzog. Et donc deux dossiers principaux sont à l'ordre du jour, les négociations sur la libération des otages et l'opération prévue à Rafah que l'administration Biden espère encore éviter. Alors on comprend que ces deux enjeux sont liés. Hier, Benjamin Netanyahou a fait une nouvelle déclaration affirmant qu'avec ou sans accord concernant la libération des otages, Tsahal maintiendrait son offensive prévue à Rafah, et cela déclenche de surcroît des tensions croissantes à l'intérieur du gouvernement israélien, alors que hier devait se tenir une réunion du cabinet de guerre justement sur ces deux dossiers, une réunion qui a été annulée. La délégation de négociateurs qui devait partir pour le Caire est finalement restée en Israël, puisqu'il a été décidé qu'on attendrait d'abord la réponse formelle du Hamas aux nouvelles conditions proposées par l'Égypte, et ce alors que les ministres nationalistes du gouvernement menacent de quitter la coalition si l'accord dans les conditions proposées par l'Égypte devait être accepté par Israël. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a notamment parlé d'un drapeau blanc, d'une capitulation israélienne si cet accord était accepté. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a affirmé qu'il avait averti le Premier ministre de ne pas accepter les termes de l'accord et surtout de ne pas renoncer à l'opération à Rafah. Et de l'autre côté de ce gouvernement d'urgence, c'est le ministre du parti de Benny Gantz, Gadi Eisenkot, qui a laissé entendre qu'il ne pourrait pas rester dans un gouvernement dont les décisions seraient prises sur des considérations politiciennes et qui ferait l'objet d'extorsions et de menaces. Évidemment, une critique adressée aux ministres nationalistes, même s'il ne les a pas mentionnés nommément. Donc, on voit que le climat autour de ces deux dossiers est extrêmement volatile, alors que pour l'instant, le Hamas n'a pas encore donc donné sa réponse. Ce que l'on sait, c'est que l'organisation terroriste exige toujours des garanties d'Israël sur la fin de la guerre à l'issue de la trêve. Une trêve qui pourrait être de l'ordre de 40 jours, contre la libération de 30 otages par le Hamas, contre la libération par Israël de l'équivalent d'environ 900 terroristes palestiniens.
Eva Soto pour Pascal.
Bonjour Pascal.
Bonjour Eva.
Benjamin Netanyahou s'est exprimé hier soir, notamment à propos de cette fameuse opération attendue à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, mais aussi par rapport à la Cour pénale internationale de La Haye qui pourrait émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de certains aux responsables israéliens.
Oui, une décision qui n'est pas encore confirmée par le tribunal pénal de La Haye, mais qui pourrait viser le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi, peut-être aussi d'ailleurs le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz. On attend évidemment une confirmation formelle qui n'a pas encore eu lieu, mais Benjamin Netanyahou a d'ores et déjà dénoncé ce qu'il a appelé un scandale de proportion historique, à savoir que le droit international serait utilisé contre Israël alors qu'Israël a légitimité à se défendre, et Benjamin Netanyahou qui a aussi mis en garde contre le fait que cette décision, si elle intervenait, risquait d'attiser une vague planétaire d'antisémitisme et a appelé les leaders occidentaux à aussi agir pour prévenir cette décision d'arrestation de responsables israéliens qui pourrait être émise par le tribunal pénal international de La Haye.
Et puis rapidement, Pascal, il y a aussi des tensions au sein de la coalition et du gouvernement par rapport aux négociations en cours sur les otages.
Oui, absolument. Donc, c'est ce que l'on a dit, à savoir que les ministres nationalistes Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir sont opposés à l'annulation de l'opération à Rafah et sont contre les conditions présentées par l'Égypte sur l'organisation d'une trêve et la libération de 30 otages, dont ils considèrent que ces conditions sont inacceptables pour Israël. Donc, une situation évidemment extrêmement tendue, alors que l'on attend une réponse du Hamas peut-être dans les prochaines heures.
Merci beaucoup Pascal Zanchai, notre correspondante à Jérusalem, chaque matin avec nous sur Radio J, également dans le Grand Journal cet après-midi à partir de 14h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
8h15, le rappel des titres avec Eva Souto. Bonjour Eva.
Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, le 208e jour de guerre contre le Hamas et la 8e visite d'Anthony Blinken depuis les massacres antisémites du 7 octobre. Le chef de la diplomatie américaine va évoquer les négociations pour libérer les otages avec le président de l'État Isaac Herzog et Benjamin Netanyahou. L'opération Arafat aura bien lieu, nécessité selon Benjamin Netanyahou, c'est ce qu'il a dit dans une vidéo postée hier soir sur les réseaux sociaux. Une enquête de Tsahal sur la mort de deux réservistes. Ils ont été tués dimanche dans le centre de la bande de Gaza à cause de tirs d'un char israélien. Char pris dans des attaques du Hamas près du couloir de Netzarim. La France va imposer de nouvelles sanctions à l'Iran à la prochaine réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le courant du mois de mai. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné en visite à Jérusalem. En France, les traditionnelles manifestations du 1er mai pour la fête du travail. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place de la République. Et puis on apprend ce matin la mort de l'écrivain américain juif Paul Auster. Il a succombé à un cancer du poumon à l'âge de 77 ans.
Merci beaucoup Eva Souto. Eva, prochain rendez-vous avec l'actualité à 8h30.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
8h16 et tout de suite c'est Microsion, votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf.
Connaissez-vous le plan Fugu, une idée née en 1934 dans le Japon impérial qui consistait à installer des dizaines de milliers de réfugiés juifs fuyant les pogroms d'Europe occupés par les nazis et de les installer en Mandchourie et à Shanghai, alors sous occupation japonaise? Le gouvernement impérial voulait profiter de la richesse économique des juifs tout en convainquant les États-Unis, grâce à la communauté juive américaine, d'accorder ses faveurs et d'investir au Japon. Le plan était à l'origine une idée d'un petit groupe de fonctionnaires militaires et de membres du gouvernement japonais réputés pour leur expertise des juifs. Le plan fut nommé d'après le plat japonais Fugu, un poisson-ballon dont le poison peut tuer si le plat n'est pas préparé avec une extrême précaution. Le plan était naïvement basé sur des préjugés antisémites européens comme décrit dans la version japonaise du protocole des sages de Sion. L'exécution du plan n'a jamais vraiment décollé. En 1939, les Juifs de Shanghai, une forte communauté juive à la recherche d'une terre hospitalière, ont demandé à ce qu'il n'y ait plus de réfugiés juifs envoyés à Shanghai, car ils n'avaient plus la capacité de s'en occuper. Préférant créer un foyer juif en Israël dès 1948, les relations entre Israël et le Japon ont commencé en 1954, quand le Japon a reconnu Israël et qu'une légation israélienne s'est ouverte à Tokyo. En 1963, les relations sont passées au niveau des ambassades et le sont restées depuis.
Microsion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale.
Le 6-9, Radio J.
Radio J.
8h18, un jour, une mitzvah avec Chaim Nissenbaum. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. Cette fois-ci, ça y est, ça semble terminé. Pessah s'est en effet achevé hier soir avec la nuit. Et maintenant, nous sommes donc le lendemain. Il faut revenir au quotidien, semble-t-il. Même si dans le calendrier national, c'est un jour férié, malgré tout. Cela semble toujours un petit peu triste. Nous avons vécu de si grands moments. Il faut vraiment revenir à la vie de tous les jours. Eh bien, remarquons que le lendemain de fête porte un nom dans la tradition juive. Il s'appelle Yisro Chag, comme pour dire fin de fête. Autrement dit, c'est la fin, mais ce n'est pas un jour comme les autres. Tout n'a pas encore repris sa place et il faut préserver ce moment. Parce qu'en réalité, on a eu l'occasion de le souligner. On ne conclut pas la fête de Pessah, on ne l'abandonne pas, on ne la laisse pas en arrière pour passer à autre chose. L'idée est justement qu'on l'emmène avec nous. La liberté, on n'y renonce jamais. Alors il faut emmener la liberté de Pessah dans notre vie quotidienne, dans les soucis du monde, dans la vie comme elle est. Alors que faire? Eh bien, Yisroch, justement. Yisroch, c'est un petit peu une passerelle. C'est un jour intermédiaire entre la fête et ce qui ne l'est plus. Yisroch, c'est la possibilité de continuer à vivre de cette manière extraordinaire que nous avons vécue au cœur du monde. Alors saisissons cette chance, c'est aujourd'hui qu'on le fait. Ne la perdons pas, demain sera toujours meilleur. Bonne journée à tous et une très bonne année à partir de Pessah.
Bonne journée Chaim Nissenbaum et merci d'être avec nous comme chaque matin sur Radio J.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Haïfa, David Broza ce matin sur Radio J. Et oui, vous allez comprendre pourquoi, région trop méconnue des Français et des Olim de France, le nord d'Israël regorge pourtant de richesses inestimables. Habitant de Naharia, Ephraim Bourganel a justement créé le site Tsarfaton pour s'y retrouver et promouvoir surtout sa région adorée. Et il est avec nous justement en direct ce matin sur Radio J. Bonjour Ephraim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Et oui, Tsarfaton, on en parle, la première plateforme pour partir à la découverte du nord d'Israël. Bonnes adresses, bons plans, lieux à visiter et une boutique en ligne pour profiter de toute la richesse des producteurs locaux. C'est ce que vous promettez en tout cas, Ephraim, sur votre site internet tsarfaton.com. Alors pour mieux vous connaître, d'abord, Ephraim, vous êtes directeur commercial. Vous avez fait votre alia assez récemment, hein, finalement, à l'été 2021. Et vous avez choisi de vous installer à Naharia. Alors, pourquoi Naharia?
Alors, en fait, nous, on s'est installé à Naharia parce que ma femme est médecin et il y avait un programme particulier pour les médecins dans le Nord, puisque le Nord manque énormément de médecins. Donc, on s'est installé un peu par hasard dans la région. Et du coup, on est tombé amoureux de cette région qui, comme vous l'avez justement dit, est très méconnue des Français et des francophones. Pas que des Français, mais même des Français qui ont fait leur alia souvent après plusieurs années. Ils ont rarement dépassé Haïfa, voire à la limite le lac de Tibériade. Donc voilà, on s'est installé ici. Et l'idée du site est née après.
Alors, vous avez expliqué, on va en parler bien sûr du site, hein, vous avez expliqué dans les colonnes d'actualité juive, qu'on peut retrouver d'ailleurs cette semaine en kiosque, que vous avez fait une alia de groupe aussi avec vos 5 enfants. Ça n'a pas dû être évident, c'est aussi quelque chose qui bouleverse une famille. Comment ça s'est passé pour vous l'alia, Ephraim?
Nous, alors à l'époque j'avais que 4 enfants, le 5e est arrivé après. Après l'alia, ça a été comme j'imagine comme pour tout le monde, ça a été une aventure. Ça l'est toujours puisque c'est pas fini. Mais par l'alia de groupe, on était quand même très très bien préparés. Donc nous, on a été très bien intégrés, ça s'est très bien passé. Et puis après, écoutez, ouais, c'est un rêve qui se réalise, donc c'est toujours bien.
Il y a beaucoup de francophones à Naharia?
Pas encore assez. On doit être peut-être maintenant entre 100 et 200. Nous, on est arrivé avec une quinzaine de familles. Voilà, tout doucement, ça se développe de plus en plus.
Et donc, c'est à force de visites, justement, dans votre région, que vous découvrez des lieux insolites, des lieux formidables. Et c'est à ce moment-là que vous souhaitez, en fait, mettre en avant la région, le nord d'Israël, avec d'abord une newsletter.
C'est ça, au début j'avais créé une newsletter, ça c'était plus pour m'amuser et puis effectivement pour faire connaître un peu tout ce qu'on découvrait, parce qu'à chaque fois on se disait mais c'est incroyable, il y a des gens, il y a des artisans, il y a des lieux, il y a des choses qui sont vraiment qu'on voyait jamais, qu'on connaissait pas. Et après en fait depuis la guerre par contre, on est passé à quelque chose de beaucoup plus entre guillemets professionnel, où on a monté une association, parce que là clairement on a senti que aujourd'hui le Nord a déjà besoin d'être soutenu. Et comment on peut soutenir l'entièreté de la région? Eh ben c'est simplement en faisant vivre la région comme elle l'était avant la guerre.
Et justement, vous parlez de la guerre, la création de votre site est liée à l'actualité, puisque c'est vrai que depuis le début de la guerre, le Nord est menacé autant que le Sud d'Israël. Comment ça s'est passé justement pour vous ces derniers mois, et comment vous avez vécu le 7 octobre et les événements actuels, hein?
Alors tout d'abord, malheureusement, aujourd'hui, le Nord est même beaucoup plus menacé que le Sud, parce que le Sud, souvent, ça cristallise effectivement toute l'actualité avec les roquettes. Il faut savoir que depuis l'offensive de Gaza, bah, c'est à peu près arrêté, heureusement pour eux, autour de l'enveloppe de Gaza. Mais dans le Nord, c'est quasi quotidien qu'il y a des alertes, ou en tout cas qu'il y a effectivement une sorte de menace avec le Hezbollah. Nous, on a vécu la guerre, ben, c'est notre première guerre, donc on la vit toujours d'ailleurs de façon assez intense, surtout que c'est une guerre un peu particulière. Mmh. Mais d'un autre côté, ça nous a complètement confortés dans notre choix d'être ici. Le fait qu'ici on est utile, le fait qu'on doit être ici aussi pour tout un tas de raisons. Et après, effectivement, voilà, moi, au niveau local, c'est ce qui m'a aussi donné l'envie d'aller plus loin et de monter ce projet qui au début était une simple newsletter en quelque chose de beaucoup plus constructif.
Absolument. Beaucoup d'habitants du nord d'Israël, hein, des dizaines de milliers, ont dû fuir leur foyer. Et vous n'avez pas eu de consigne particulière à Naharia ?
Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de la question.
Est-ce que vous avez eu des consignes particulières de l'armée, des autorités, justement, par rapport aux alertes à la roquette ?
Bah écoutez, les mêmes consignes que tout le monde. Hein, quand il y a des alertes, alors nous, à Naharia, il n'y en a pas eu beaucoup. On est assez épargné pour le moment de vraies sirènes, mais quand il y en a, vous allez dans le Mamad et puis vous attendez. De toute façon, vous pouvez rien faire d'autre. Effectivement, il y a une partie des villes qui sont tout au nord, donc Kiryat Shmona, etc., qui sont eux déplacés dans les hôtels depuis longtemps.
Oui.
C'est une situation qui est très difficile pour eux. Mais bon, nous, pour l'instant, on a la chance de pouvoir vivre à peu près normalement.
Alors, on parle de Tsarfaton. C'est vrai que depuis le début de la guerre, donc le Nord souffre énormément de la pression du Hezbollah qui entraîne une baisse du tourisme interne. Et donc, vous créez ce fameux Tsarfaton avec deux autres olim de France. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site internet ?
Alors, bon, par contre, c'est bien pour épeler le site. Et c'est Tsarfaton.
Tsarfaton, pardon.
C'est la contraction de Tsarfatim et Tsafon.
Je l'ai fait à la française.
En fait, c'est un site. Voilà, exactement. Mais au moins, comme ça, ça sera plus facile pour écrire pour les auditeurs. Ce qui est, en fait, sur le site, vous avez une première partie qui est pour, effectivement, le tourisme, c'est-à-dire, bon, plutôt les gens qui viendraient ici, soit de France, mais soit d'Israël également, c'est important, avec tous les bons plans. Et ça, c'est vraiment les bons plans que nous, on connaît. Il y a vraiment des endroits incroyables et, comme je l'ai dit tout à l'heure, des producteurs locaux à découvrir de folie. Vous avez une partie qui est là, qui référence les professionnels du Nord qui sont francophones. Donc vous avez les médecins, les opticiens, des entreprises de nettoyage, des gens qui louent des bateaux. Et j'invite tous les prestataires francophones qui pourraient se reconnaître à se signaler, c'est entièrement gratuit, de se référencer sur le site. Ça, c'est pour également les gens qui voudraient soit s'installer ici, soit qui sont de passage dans le Nord et qui pourraient avoir besoin d'un professionnel. Et vous avez une troisième partie. Alors, on était parti sur une boutique en ligne. Aujourd'hui, c'est plus une troisième partie qui est sur toute l'actu de ce qui se passe dans le Nord, avec les communautés francophones, etc. Parce que la boutique était un peu compliquée à gérer pour les petits producteurs. On l'a mis de côté, on y reviendra sûrement un jour. Mais pour le moment, on a fait par contre une partie où on peut communiquer sur tout ce qui se passe dans le Nord et qui peut intéresser les francophones.
Effectivement. Alors, Tsarfaton, on peut évidemment voir tous les lieux aussi à visiter. C'est vrai que souvent, on visite Tel Aviv, on visite Jérusalem et on oublie un petit peu le nord d'Israël, comme vous l'avez dit. On peut trouver au nord des réserves naturelles. Il y a aussi des restaurants incroyables. Si vous deviez conseiller, par exemple, à un Français qui ne connaît pas le nord d'Israël, quelques endroits à visiter absolument.
Ah, alors il y en a tellement, mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, dans les hauteurs du Golan, il y a un nombre de réserves naturelles et de promenades qui sont inimaginables. Donc c'est vraiment des sites magnifiques qui changent complètement du paysage d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de verdure, beaucoup de forêts, beaucoup de rivières, beaucoup de cascades, enfin, vraiment des balades à faire avec les enfants notamment qui sont nous on fait des voyages exceptionnels à 30 minutes d'ici. Après vous avez pour nous francophones, ce qu'on aime, vous avez par exemple, je vous donne un exemple très simple. Il y a une Française qui a fait son alia il y a quelques années, qui est maître fromager. Elle s'appelle Noémie, elle est dans le Nord, elle fabrique son propre fromage de haute qualité. Elle organise des soirées wine and cheese, des soirées dégustation, des ateliers de fabrication. Vous voyez ça ? Nous qui aimons la bonne nourriture et le bon vin, vous avez toute une route des vins avec une distillerie également de whisky au nord de Tibériade. Vous avez des fabricants de fromage, vous avez ici pas très loin. Quelqu'un qui fabrique son propre chocolat au lait de chèvre de haute qualité, etc., etc. Je pourrais des heures et des heures pour vous en donner.
Alors, si on veut vous contacter justement, si on est aussi un francophone et qu'on veut se référencer, alors est-ce qu'il y a un numéro, est-ce qu'il y a un mail ?
Alors le mail très simple, contact @tsarfaton, tsarfaton.com. Et sinon, allez directement sur le site, il y a aussi un formulaire de contact. Ou sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, sur Facebook. Les gens peuvent nous contacter avec grand plaisir. Et voilà, pour que l'aventure soit le plus joli possible.
Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt sur Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio
J. Il est 8h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins. Nous sommes le mercredi 1er mai 2024 et nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme chaque matin sur Radio J. Tout de suite, actualité avec Eva Sautou. Essentiel de l'information avec vous, Eva, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Le 208e jour de guerre contre le Hamas et la 8e visite d'Anthony Blinken en Israël depuis les massacres antisémites commis par le Hamas le 7 octobre. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé hier soir. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le président de l'État, Isaac Herzog, et le premier ministre Benjamin Netanyahou, Anthony Blinken, qui va notamment évoquer les négociations pour la libération des otages. Elle porte sur 40 des 95 qui seraient encore vivants. Et malgré tout, l'opération à Rafah aura bien lieu, une nécessité selon Benjamin Netanyahou dans cette vidéo postée hier soir sur les réseaux sociaux. Le premier ministre israélien l'a affirmé. L'opération de Rafah doit être lancée pour permettre d'atteindre les objectifs de la guerre, libérer tous les otages et défaire le Hamas. Une enquête de Tsahal sur la mort de deux réservistes tués dimanche dans le centre de la bande de Gaza. Ido Aviv, 28 ans, et Kalkidan Meharim, 37 ans. Ils ont été tués à cause des tirs d'un char israélien pris dans des attaques du Hamas. Tension en Israël et en Judée-Samarie. L'ambassadeur d'Allemagne a été attaqué à coups de pierre hier. Il était en visite à l'université palestinienne de Bir Zeit. C'est sa voiture qui a été visée. Des étudiants ont aussi donné des coups de pied dans son véhicule et arraché le rétroviseur. La France va imposer de nouvelles sanctions à l'Iran à la prochaine réunion de l'AIEA dans le courant de ce mois de mai. Les États-Unis pourraient aussi y adhérer. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre français des Affaires étrangères à son homologue Israël Katz, Stéphane Séjourné, qui était en visite à Jérusalem. En France, les traditionnelles manifestations du 1er mai pour la fête du travail à Paris. Le cortège s'élancera à 14h de la place de la République pour rejoindre Nation. Au centre des défilés, la réforme de l'assurance chômage. Mais la crainte, c'est aussi que l'ultra-droite et des mouvements d'ultra-gauche souhaitent faire entendre leur voix, notamment pro-palestinienne ou anti-sioniste. La mort de l'écrivain américain juif Paul Auster. Il a succombé à un cancer du poumon à l'âge de 77 ans. C'est le New York Times qui l'a annoncé ce matin. Né à Newark dans le New Jersey, la même ville que Philip Roth, Paul Auster a donné au roman policier ses lettres de noblesse par leur tournure philosophique, notamment à travers sa trilogie new-yorkaise en 1987.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva qu'on retrouvera un petit peu plus tard sur Radio J. Ne bougez pas les amis, encore de nombreux rendez-vous.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Effectivement, on va parler de cette tribune publiée par trois hommes de foi, trois chrétiens. Christophe Le Sourd, le prieur d'Abou Gosh, Louis-Marie Coudray et le père Patrick Desbois. Nous serons avec un de ces trois hommes dans quelques instants. Et puis juste après, Caroline Amouyal, pour ce que l'humanité doit aux Juifs. On va s'intéresser ce matin à quatre frères à avoir révolutionné l'industrie du cinéma. Les frères Warner, et oui, la Warner Bros. Et puis la santé, comme chaque matin, avec le docteur Serge Raphaël. Et ce matin, avec Serge Raphaël, eh bien, on va parler de nos cerveaux, le futur de nos cerveaux, notamment l'homme augmenté. À tout à l'heure.
Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal. 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio J. Radio J.
Le 6-9. Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Et avant de retrouver notre interview, à noter, on l'apprenait il y a quelques instants, plusieurs magasins hyper cachers à Paris ont été évacués après des menaces et des alertes à la bombe, ainsi qu'une synagogue. Plus d'informations à venir. Mais tout de suite, donc, l'invité de la rédaction, Christophe Lesourd, au micro d'Eva Soto.
Père Christophe Lesourd, bonjour.
Bonjour Eva.
Vous êtes directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Et vous signez avec le père Patrick Desbois, qui s'est notamment fait connaître sur la Shoah en Ukraine, tuerie de masse de juifs par balle, votre tribune qui est intitulée « À nos pères dans la foi, vous n'êtes pas seuls ». Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont connu une hausse exponentielle en France, mais aussi dans le monde. S'en sont suivis des marches contre l'antisémitisme. Plus de 6 mois ont passé depuis ces massacres antisémites, eux, commis par le Hamas en Israël. Pourquoi s'est fait sentir aujourd'hui pour vous la nécessité de vous adresser aux Juifs pour leur dire « Vous n'êtes pas seul ».
Alors tout d'abord, cette tribune a été co-signée également par Louis-Marie Coudray, le frère Louis-Marie Coudray, qui est le prieur d'Abou Gosh.
D'accord.
Et il était mon prédécesseur. Et ça nous a paru très important à Patrick Desbois, à Louis-Marie et à moi, de montrer que les directeurs successifs du Service national pour les relations avec le judaïsme étaient tout à fait en phase pour dire à nos frères juifs, vous n'êtes pas seuls. Et cette démarche s'inscrit également dans ce qui s'est passé le 1er février 2021 à la Conférence des évêques de France. Ce jour-là, le Conseil permanent, en la personne du président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a remis solennellement à Raïm Korsia, le grand rabbin de France, à Francis Khalifa, qui était à l'époque le président du CRIF, et puis également à M. Joël Mergui, qui était président à l'époque du Consistoire central, une déclaration exhortant non seulement tous les catholiques, mais tous nos concitoyens français à lutter contre tout antisémitisme, quelle que soit sa forme, religieuse ou politique, et à lutter contre l'anti-judaïsme chrétien. C'est dire combien les évêques de France sont très conscients de ce qui est en train de se passer sur le continent européen et de manière singulière en France.
Père Christophe Lesourd, c'est très important ce dont vous venez de parler parce que effectivement, on le voit hein, depuis le 7 octobre, ça a ouvert malheureusement les vannes de l'antisémitisme. L'antisémitisme aujourd'hui a évolué, il a muté. D'ailleurs, vous le dites dans votre tribune, il est polymorphe. Il y a malheureusement une époque où l'antisémitisme était chrétien. Est-ce que dans ce que vous voyez se déployer aujourd'hui, vous en voyez des traces qui vous alerte ou alors d'après vous, c'est totalement différent?
Comme vous le dites, nous avons utilisé le mot polymorphe et c'est vrai, si vous voulez, que si nous avons insisté sur la lutte contre l'antisémitisme et l'anti-judaïsme chrétien, c'est parce que nous mesurons que au moment de la pandémie, nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons vu des vidéos complètement délirantes qui reprenaient tous les clichés de l'antijudaïsme chrétien. Et nous sommes dit, là, c'est de notre responsabilité de lutter contre cet aspect de l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons publié, il y a 6 mois, un livre qui s'appelle « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». Et ce livre, préfacé par le grand rabbin Raïm Korsia, avec un avant-propos du président de la Conférence des évêques de France, est un manuel à la disposition de tous les éducateurs chrétiens, de tous les prédicateurs, pour montrer que, voilà, là où on est, il faut déconstruire l'antijudaïsme chrétien, antijudaïsme chrétien qui a été le terreau d'un antisémitisme qui a été jusqu'à conduire au nazisme.
La question que je vous posais, c'était, là, vous parliez du Covid. Aujourd'hui, dans ce qui se déploie, qu'est-ce que vous voyez qui peut vous alerter en tant que chrétien concernant l'antisémitisme?
Je pense que actuellement, ce qui est en jeu, c'est le basculement de la démocratie vers l'oclocratie.
C'est-à-dire?
Ce que démontre l'historien Polybe, il y a de très nombreux siècles, c'est les cycles politiques. La démocratie, c'est le peuple souverain qui parle, qui s'exprime. L'oclocratie, c'est la foule qui hurle. Et nous voyons bien qu'actuellement, dans les rues et dans les réseaux sociaux, c'est la foule qui hurle. C'est la clameur de la foule, pour reprendre une phrase de Raymond Aron, écrite dans les années 30. C'est la clameur de la foule, et c'est éminemment inquiétant. Et on voit bien que ce sont des convictions et des attentes parfois extrêmement contradictoires qui vont se retrouver dans un phénomène de masse. Et on voit également la désignation d'un bouc émissaire, et en cette occurrence, à nouveau, ce sont les Juifs. Et donc c'est éminemment inquiétant.
Éminemment inquiétant. Vous avez cité les années 30. À votre avis, on en est là ?
Oui, mais différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous constatons que la grande difficulté, c'est de partager un réel commun. Moi, je commence à être un vieux monsieur, j'ai connu les années 60, et tous les soirs, qu'est-ce qui nous rassemblait ? C'était le journal télévisé. Ce qui faisait que le lendemain, les uns et les autres évoquaient quoi ? Un réel commun, qui bénéficiait, entre autres, de l'expertise des journalistes. Or, aujourd'hui, les uns et les autres, et surtout les jeunes, vont se renseigner, s'instruire sur les réseaux sociaux. Et le phénomène des réseaux sociaux, c'est pas je crois ce que j'ai vu, c'est je veux voir ce que je crois. Et par conséquent, les gens ne veulent voir que ce qui les confirme dans leurs convictions. Et par conséquent, comme le avait très bien décrit René Girard, c'est la montée aux extrêmes. Et donc nous sommes dans cette situation-là. Donc à la fois, nous avons des éléments communs par rapport aux années 30, et là il y a une véritable spécificité liée précisément aux nouveaux instruments de communication.
Il y a eu ces dernières semaines, et notamment ces derniers jours, des blocus à Sciences Po, d'étudiants se disant pro-palestiniens, mais en réalité, ça ressemblait à des manifestations plutôt anti-sionistes, notamment avec des slogans contre l'existence d'Israël, le fameux « From the River » tout aussi, qu'on connaît malheureusement très bien. Vous dénoncez dans votre tribune une haine vertueuse, insidieuse contre les Juifs. C'est ce que vous avez vu à l'œuvre, à Sciences Po ?
Cette formule, elle est d'Alain Finkielkraut, dans son très beau livre « Pêcheur de perles ». Et il l'a réutilisé à plusieurs reprises. Donc nous l'avons mis entre guillemets. Oui, une haine vertueuse. C'est ce qui est en train de se mettre en route avec des mécanismes idéologiques extrêmement mortifère. C'est-à-dire qu'on est en train d'inverser la charge. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de personnes considèrent qu'il est tout à fait possible, au nom d'une solidarité tout à fait légitime en soi, tout à fait légitime vis-à-vis de populations, de trouver le moyen de pouvoir haïr une autre population, et en cette occurrence, nos frères juifs.
Inverser la charge, l'inversion du bourreau et de la victime, c'est ce qui est à l'œuvre, d'après vous, actuellement. Vous évoquez dans cette tribune, vous dites, hein, il est légitime d'évoquer la responsabilité de l'actuel gouvernement israélien. Comment parler de ce conflit meurtrier sans nommer aussi le mouvement terroriste Hamas et les choix stratégiques de sa branche armée, les brigades Al-Qassam. Impossible d'oublier les otages détenus à Gaza depuis plus de 6 mois. La phrase à retenir là-dedans, c'est impossible d'oublier les otages détenus à Gaza depuis plus de 6 mois. Et pourquoi vous insistez là-dessus ? Les otages sont oubliés, d'après vous, d'après ce que vous voyez autour de vous ? C'est ça aussi que vous voulez dénoncer ?
Ce que nous voulons, c'est sensibiliser au maximum, en particulier, puisque ça a été publié dans le journal La Croix, nos concitoyens catholiques, de dire, bien sûr, nous sommes tous bouleversés de ce qui se passe, comme dira, à Gaza. Mais on ne peut pas imputer la totalité des faits, comme dire, au seul gouvernement israélien. Comme dire, évidemment, il doit y avoir la libération de la totalité des otages. Et là encore, on est très touché du fait qu'il y a un silence minéral en France vis-à-vis de nos concitoyens qui sont aujourd'hui détenus en otage. Bien sûr qu'il faut penser à la totalité des otages, mais ne fût-ce que cela, pensez à nos concitoyens français.
D'après vous, il aurait dû y avoir des choses devant les mairies, comme
bien entendu, comme ça s'est passé lorsqu'il y a eu des journalistes. Enfin voilà, on a tous en mémoire de grands élans de solidarité légitimes vis-à-vis de nos concitoyens détenus otages.
Et d'après vous, c'est de l'antisémitisme larvé, ça?
C'est comme dire, c'est par à nouveau le biais, comme dire, on voit bien comme dire, le fauné de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisionisme. Voilà. Et donc on voit bien que le grand danger, c'est un basculement, c'est-à-dire ça n'est plus soutenir la cause palestinienne, mais c'est soutenir le principe de la disparition d'Israël.
Merci beaucoup, Père Christophe Lesourd, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la Conférence des évêques de France.
Merci beaucoup Eva Soto et merci à Christophe Lesourd. Nous devions retrouver ce matin le père Patrick Desbois. Quelques difficultés à le joindre puisqu'il est à Washington. On espère le retrouver très bientôt, peut-être demain sur Radio J. En tout cas, merci Eva. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Ils sont quatre frères à avoir révolutionné l'industrie du cinéma. Alors ça ne dure que quelques secondes, mais j'imagine que vous avez tous déjà entendu ça. C'est l'intro de la Warner Bros, les frères Warner qui ont chacun à leur manière contribué à créer cet empire cinématographique mondial. Et justement ce matin, dans notre série « Ce que l'humanité doit aux Juifs », on va faire le portrait de ces quatre frères avec vous, Caroline Amouyal, bonjour.
Bonjour Ilana, d'ailleurs vous saviez que Warner Bros, ça veut dire « Brothers » parce que je venais de l'apprendre.
Très voilà. Bien, merci. C'était beaucoup pour cette info.
Et alors, à l'origine, ces frères Wong Solasser d'origine sont issus d'une famille juive polonaise ayant fui les pogroms à la fin du 19e siècle et ils changent leur nom pour Warner à leur arrivée aux États-Unis pour l'américaniser comme bon nombre de juifs débarqués. La fratrie qui n'a pas d'argent, n'a pas le luxe de suivre des études et travaille dès lors pour subvenir à leurs besoins, à l'image de leur père Benjamin qui effectue différents jobs dans le négoce de la fourrure et des chaussures. À la maison, on parle presque exclusivement le yiddish, on ne mange que kasher et l'on vit près de la synagogue pour observer le Shabbat. C'est dans ce climat que les quatre enfants de la famille, Harry, Albert, Sam et Jack, grandissent.
Mais chaque frère a sa personnalité unique et on peut le dire, ce qui joue d'ailleurs un rôle important dans la création de la future entreprise.
Et oui, parce que chacun y apportera sa contribution. Harry, l'aîné, fait figure de chef, il sait garder la tête froide, c'est donc lui qui prend les décisions importantes. Albert, le deuxième, est plus timide, plus réservé, alors on lui donne le rôle de comptable, de gestionnaire de la bande. Sam, le troisième, est l'inventeur, l'innovateur, tandis que Jack, le Benjamin, est en quelque sorte le vilain petit canard, flambeur et coureur. Le contact ne sera pas toujours facile avec ses frères.
Et ça, nous le verrons plus tard. Alors, vous l'avez dit, les frères travaillent tôt, ils expérimentent différents secteurs, la cordonnerie, la boucherie, la réparation de vélos et même l'ouverture d'un bowling, jusqu'à ce que Sam, le petit génie de la bande, fasse une découverte qui va bouleverser leur existence.
Et oui, ils découvrent le kinétoscope d'Edison. Vous savez ce que c'est, Ilana ?
Non, dites-nous tout.
Eh bien, c'est une boîte dans laquelle on pouvait regarder autrefois un film à travers une fente. Un objet qui joue un rôle déterminant dans la naissance du cinéma, car Sam y voit tout de suite une opportunité. Il devient donc projectionniste dans un cinéma Nickelodeon et fait comprendre à ses frères à quel point cette industrie est florissante. Ils ouvrent alors leur première salle de cinéma en 1903 en Pennsylvanie et s'endettent même pour acheter leur projecteur.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est un succès immédiat, hein, Caroline.
Eh bien oui, les foules viennent en masse et naturellement, ils ne veulent pas rester seulement gestionnaires de salles. Ils deviennent donc d'abord distributeurs, ils achètent des films et les louent à des gestionnaires de salles. Puis, dans un second temps, ils souhaitent produire eux-mêmes des films de meilleure qualité que ceux proposés et ainsi aussi, de cette façon, contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur. Seul hic, ils se heurtent à la fameuse société d'Edison, qui a un quasi-monopole sur le secteur. La concurrence est féroce. Edison a la mainmise sur l'Est des États-Unis. C'est pourquoi les frères Warner quittent New York pour la Californie.
Et donc, en 1918, les Warner Bros, créent enfin leur studio à Hollywood sur le Sunset Boulevard.
Et ils connaîtront leur premier succès avec Rintintin. Vous savez, ce berger allemand qui joue dans des films de cow-boys et qui aura même son étoile sur le Hollywood Boulevard. Et oui. Rintintin est d'ailleurs français. 10 ans après leur arrivée à Los Angeles, Sam crée le premier film parlant en associant le son à l'image. Il s'agit du Chanteur de jazz, diffusé pour la première fois sur grand écran le 6 octobre 1927. Un film qui remporte un véritable triomphe, mais qui sera entaché la veille de sa projection par la mort de Sam, justement, qui n'aura pas donc pu assister à son succès, malheureusement.
La Warner Bros. Devient en tout cas incontournable à partir de ce moment-là et va aussi se poser comme un véritable opposant au nazisme.
Et oui, alors que le Reich impose aux studios de ne pas employer de juifs allemands, Harry, l'aîné, décide de ne plus distribuer les films de la Warner en Allemagne. Et ils vont encore plus loin en proposant des films, en les produisant avec des personnages farouchement anti-nazis, comme Bosco, le dessin animé qui fait une satire d'Hitler, ou encore ce film légendaire que l'on connaît tous, Casablanca. L'intrigue se déroule en 1942 au Maroc sous le régime de Vichy.
Bon alors malheureusement, vous en avez brièvement parlé Caroline, la relation entre les frères ne va pas vraiment bien se terminer. Hein.
Eh bien non, après la guerre, Jack, le plus jeune, prend de l'importance et va jusqu'à évincer ses frères en 1956 en faisant entrer discrètement de nouveaux actionnaires au capital. Les frères ne se parlent plus jusqu'à leur mort pour le dernier en 1967. Enfin, heureusement, Ilana, la Warner Bros. Reste aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde pour le cinéma et la télévision. Les producteurs, entre autres, d'Harry Potter ou encore The Dark Knight.
Eh bien, merci beaucoup Caroline Amouyal pour ce portrait des frères Warner Bros. Ce matin sur Radio J. Peut-être que Greg, vous pouvez nous remettre cette fameuse intro qu'on adore, qu'on a tous déjà entendue.
On sait que ça va être un grand film qui va suivre après.
Merci Caroline Amouyal, rendez-vous la semaine prochaine sur Radio J.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Et c'est la santé. À présent, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Raffal. Bonjour docteur.
Bonjour Ilana.
Et ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pessard. Mais c'est vrai que vous, vous avez l'habitude de manger des matzottes, des galettes. Donc ça n'a pas dû être très compliqué, j'imagine, Serge.
J'ai fait ce matin également.
Alors vous avez reçu avec le fiston Nicolas d'Henri Foix dimanche matin le professeur Raphaël Gaillard, fraîchement élu à l'Académie française, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne, pour son ouvrage L'homme augmenté chez Grasset. Et vous souhaitiez justement faire bénéficier nos auditeurs et nos auditrices des idées forces de cet entretien, les encourager peut-être à écouter l'enregistrement dans sa totalité ou à lire ce livre, donc L'homme augmenté, qui fait le point sur l'association Homme-Machine qui a bénéficié, c'est vrai, des progrès des neurosciences et de l'intelligence artificielle.
En effet, Ilana, nous avons été bien sûr honorés et heureux de recevoir le professeur Gaillard, élu la semaine dernière académicien au siège de Valéry Giscard d'Estaing, pour l'anecdote, et de bénéficier de sa réflexion, son expertise à propos du bond technologique brutal que représente l'introduction maintenant irréversible de l'intelligence artificielle en médecine et dans sa spécialité, avec des conséquences bien sûr bénéfiques, mais aussi des craintes qu'il nous a exposées. Et le psychiatre qu'il est, le chef de service, redoute tout particulièrement une hausse probable des maladies mentales pourtant déjà si fréquentes. Je vous rappelle que la schizophrénie, c'est actuellement 1% de la population française, soit 700 000 personnes. Les troubles bipolaires, c'est 2-3% de la population, soit 1,5 à 2 millions de personnes. Et la dépression touchera un Français sur 5 une fois dans sa vie.
Et alors pourquoi cette crainte, l'intelligence artificielle devrait soulager le travail du cerveau ?
Eh bien, écoutez, il y a des études qui sont à l'appui. Une étude israélienne récente de 2019, dont nous a parlé le professeur Gaillard, dont il parle dans son livre d'ailleurs, a montré qu'à la différence du singe qui a privilégié la solidité, le cerveau humain en a opté pour une plus grande flexibilité, une meilleure adaptation à l'environnement. Il a donc renoncé à la robustesse, ce qui a pour conséquence une exposition plus fréquente aux bugs et donc une plus grande vulnérabilité aux troubles mentaux. Et l'introduction de l'intelligence artificielle dans ce qu'il appelle une hybridation homme-machine risque, nous a-t-il expliqué, de créer une surchauffe dans un cerveau fragile et déjà bien sollicité. Et nous ne savons rien, en outre, de l'harmonie entre une machine dont on ignore la stabilité et un cerveau qui ne l'a jamais rencontré.
Mais les progrès des neurosciences vont permettre le soin et la réparation, justement.
Oui, l'ouvrage du professeur Gaillard fourmille d'exemples où l'intelligence artificielle permet des choses impensable comme de permettre à un tétraplégique, après un apprentissage de quelques mois, de dicter un texte par la pensée, quasiment à la vitesse d'un SMS, 23 mots par minute, ou de jouer aux échecs. Mais pour lui, la frontière est ténue entre réparation et augmentation. Et en visant la première, on risque, sans le vouloir expressément, de solliciter la seconde. Il évoque le livre de Mélisse de Kerangal, « Réparer les vivants », où la grève du cœur d'un jeune homme de 19 ans à une dame de 51 ans augmente de facto ses capacités. Mmh.
L'intelligence artificielle est sans limite, selon vous, Serge ?
Nous lui prêtons trop, davantage qu'elle a, qu'elle n'a ou ne peut donner, ce qui lui procure un crédit inépuisable. Alors beaucoup, certains se tournent vers ChatGPT, ça peut écrire un discours ou composer une musique, mais seulement à la manière de. Et l'intelligence artificielle fonctionne en réalité pour son propre compte, avec des connexions qui sont renforcées chaque fois que l'information passe par elle, ce qu'il illustre lui par la colonie de fourmis, dont chacune est très très limitée au point de vue de l'intelligence, mais qui sont capables de ramener très efficacement de la nourriture dans la fourmilière.
Et le professeur Gaillard fait en quelque sorte une déclaration d'amour à la littérature.
Normal, il en a pour un académicien. Pour lui, la première grande hybridation, la grande affaire de l'humanité, c'est le livre. C'est une annexe de notre cerveau, c'est une prothèse de la mémoire que nous acceptons de partager, que nous déposons dans une bibliothèque, dont nous défaisons, que nous pouvons utiliser à tout moment, et qui en retour nous transforme. Et c'est ainsi qu'il évoque les maladies textuellement transmissibles, le livre permettant de recréer son monde par la pensée et nous exposant à nous y perdre. Ce qui rend intelligent, en réalité, c'est la lecture. Et même l'intelligence artificielle gagne en puissance lorsqu'on lui fait ingurgiter des milliers et des milliers et des milliers de pages de texte.
Et puisque vous évoquez d'emblée la lecture, elle a perdu définitivement face aux écrans, selon vous ?
Peut-être pas. Je vous rappelle qu'un rapport vient d'être remis au Président avec des préconisations, je vous en parlerai probablement demain, mais les chiffres sont là, le constat impitoyable, la lutte bien incertaine. Les 7-19 ans passent 10 fois plus de temps, 3h11 par jour, le nez collé à un écran, qu'à lire un livre, 19 minutes en moyenne. Et les mangas représentent chez les garçons de 13 à 15 ans les 3/4 des livres lus. Il est peut-être encore temps d'agir, non ?
Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ?
Il ne faut surtout pas laisser Homo sapiens se transformer en Homo numericus. Le retour au livre constitue notre plus grand espoir de limiter la casse des multiples hybridations technologiques qui ne vont pas manquer d'advenir. Vous avez compris, il y en a quelques-unes des raisons pour lesquelles je conseille à nos auditeurs de profiter de la fête du travail pour réécouter sur notre site ou YouTube l'Europe. Clé de cet entretien essentiel avec le professeur Raphaël Gaillard, le dernier nommé et le plus jeune de nos immortels.
Eh bien, merci beaucoup Serge Raphaël, le docteur de Radio J qu'on retrouve tous les matins sur cette antenne. Serge, je vous dis à demain.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous, la Traviata ce matin. Et oui, on parle de musique classique puisqu'un événement exceptionnel se tiendra comme chaque année ce week-end du 3 au 5 mai. C'est Tous à l'Opéra, l'opéra gratuit pour tous avec plusieurs opéras, une trentaine d'opéras qui ouvrent en France, que ce soit à Paris mais aussi en région. Et à Paris, il y a certains opéras qui sont ouverts pour tous ceux qui veulent s'y rendre gratuitement. Voilà, alors il faudra faire vite. Rendez-vous sur tousalopéra.com. Bien sûr, j'imagine que ça vous intéresse l'opéra, Léa nous a rejoint en studio.
J'aime beaucoup, et surtout Nabucco de Verdi et d'autres encore. J'adore ça.
Attendez, vous donnez trop d'informations à Greg, là, il ne sait plus où donner de la tête. Mais ce matin, on avait mis Carmen, et Carmen, ouais, c'est vraiment.
C'est vrai.
C'est cultissime.
Mais si. Oui, Carmen, c'est magnifique. Mais si on peut trouver pour moi le chant des esclaves dans Nabucco.
Ou alors sinon, vous pouvez chanter. Sinon, vous pouvez chanter, parce que vous chantez très bien, Léa.
Oh non, non, là,
mais vous refusez, voilà, par timidité, comme toujours. Alors,
je chante dans ma salle de bain. Ouais, dans ma salle de bain, j'avoue.
En tout cas, l'information, les amis, toussalopéra.com, c'est du 3 au 5 mai. Rendez-vous sur toussalopéra.com. Alors, peut-être que les places à Paris ont déjà été prises, parce que ça va très vite. Ça a annoncé depuis déjà plusieurs semaines. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez faire découvrir à vos enfants peut-être, et découvrir aussi les coulisses, hein, parce qu'il n'y a pas que les concerts, il y a aussi les coulisses de l'opéra qu'on peut visiter.
Et voilà Nabucco, merci. Merci beaucoup Greg.
Magnifique maestro. Alors Léa Moscona, on vous retrouve dans quelques instants.
Absolument, dans l'air du temps d'abord à 9h10. Alors dans l'air du temps ce matin, j'aurai le grand plaisir d'être en compagnie de la coach de couple Ilani Taouizerat. Nous parlerons d'un sujet grave et qui pourtant nous inquiète et aujourd'hui et qui est de plus en plus courant, c'est cette violence conjugale. Donc, quelles sont ces violences et comment y remédier? Ce seront les différentes questions que nous poserons à Ilanit.
Ce sera à quelle heure ça?
9h10 jusqu'à 9h30.
10. Merci beaucoup Léa Moscona, à tout de suite.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.